Bonjour à tous. Je pense que le micro, on peut le baisser, j'ai du coffre. Voilà, je dis toujours la même chose dans les églises où je passe. Voilà, j'aimerais simplement quelques instants avant de commencer qu'on puisse prier le Seigneur et lui remettre ce moment entre ses mains. Il ne bénira pas sa parole, elle est bénie de toute éternité, mais qu'il nous bénisse, nous chacun. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on pourrait se mettre debout devant le Seigneur et maintenant prier tous ensemble? De demander au Seigneur, oui, donne-moi ce cœur d'obéissance. Donne-moi ce cœur, c'est vrai, renouvelle en moi ce cœur de disciple. Renouvelle en moi ce cœur bien disposé. Comme disait David, eh bien oui, ô Dieu, sonde-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, parce que Seigneur, tu es celui qui connaît de toute éternité, Seigneur, les tenants et les aboutissements, Seigneur, les aboutissements de cette réunion, de ce rassemblement. Seigneur Jésus, tu sais ce que tu veux parler, Seigneur, communiquer, tu sais ce que tu veux apporter à chacun, à chacune. Et ma prière, c'est que Seigneur, nos cœurs soient ouverts devant toi. Non pas, Seigneur Jésus, nos cœurs qui s'attendent à quelque chose de particulier, mais Seigneur, des cœurs qui sont disposés et qui te disent, comme Samuel a pu le dire, parle car ton serviteur écoute. Parle car tes enfants écoutent. Et ce que tu diras, Seigneur, eh bien, nous voulons le serrer sur notre cœur. Le mettre en application, le vivre pour porter du fruit, Seigneur, dans ce monde, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus, merci Sauveur. Amen. Amen. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Très heureux d'être ici pour la première fois. On ne connaissait pas du tout le coin et ça fait plaisir de découvrir un peu du paysage. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, vous avez les salutations de l'Assemblée de Cavaillon où nous sommes avec mon épouse depuis maintenant 3 ans. Et où le Seigneur, eh bien, fait de belles et de grandes choses. Alléluia. De toute manière, quand nous sommes, eh bien, à son écoute, quand nous sommes ouverts devant lui, Jésus agit. Toujours. Alléluia. Et je rectifierai juste une petite chose. Je suis pas venu simplement qu'avec un bon échantillon, un bel échantillon, mais avec deux, puisque dans deux mois maintenant, mon épouse va accoucher aussi. Et donc, voilà, priez pour nous afin que nous puissions exercer ce merveilleux ministère. Alléluia. Allez, on ouvre ensemble la parole du Seigneur. Je vous invite à prendre avec moi ce texte que vous connaissez tous et toutes, Luc chapitre 4, versets 1 à 14. Luc chapitre 4, versets 1 à 14. Nous connaissons tous et toutes ces paroles et mon but, je n'ai pas la prétention d'apporter de nouvelles choses, bien au contraire, mais d'attirer encore notre attention sur des vérités qu'en tant que chrétien, qui sont importantes, fondamentales, et qui pourtant, on peut les mettre de côté si rapidement, si vite. Quand je me suis engagé avec le Seigneur le 7 décembre 2002, j'ai pris mon baptême quelque temps plus tard, mon pasteur à l'époque m'a dit ceci, il m'a dit « tu rentres dans une nouvelle vie », mais il m'a dit « n'oublie pas non plus, c'est que tu rentres dans un combat, dans un combat ». Et il m'a dit « faudra dans le nom de Jésus ne pas te relâcher, mais avancer avec le maître. » Et c'est ce que je voudrais vous apporter ce matin. Si j'avais un thème à donner à ce message, je dirais trois domaines dans lesquels nous sommes tentés et dans lesquels nous devons veiller. Avant de lire ce texte, je voudrais vous rappeler deux enjeux de la vie chrétienne. Ne les oublions jamais, mes frères et sœurs, parce que si nous les oublions, nous allons donner à notre vie chrétienne peut-être une dimension qu'elle n'est pas. Aujourd'hui, on dit aux gens, la vie chrétienne, c'est le tapis rouge. La vie chrétienne, il n'y a plus de problème, on est bien. Merci Seigneur, c'est la plus belle des vies et je suis là pour en témoigner. Mais la vie chrétienne, premièrement, est un combat. Un combat. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul va dire ceci en Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Est-ce que vous pouvez nous l'afficher, s'il vous plaît? Il dira, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et le mot « lutter » ici, c'est le terme qui était utilisé dans les combats de gladiateurs. Ce n'est pas là dire simplement une petite bataille. Le mot « lutter » que Paul utilise, c'est un combat de gladiateur où le combat est terminé le jour où il y en a un qui est fini, qui est mort. Dans les arènes, les gladiateurs, le combat n'était pas fini tant qu'il n'y en a pas un des deux qui était mort. Et l'apôtre Paul est en train de dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de dire, il y en a un qui doit périr. Qui ? Qui ? Parce que mes frères et sœurs, je vous rappelle que l'ennemi, le diable, eh bien depuis que nous nous sommes donnés au Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as déclaré au diable la guerre, et lui aussi te l'a déclaré. Et le diable, lui, il veut nous détruire. Le diable, lui, il cherche, eh bien, à nous éliminer. Mais merci Seigneur, il est venu Jésus pour nous donner la vie, pour nous permettre de remporter la victoire. Il a remporté lui-même la victoire. Et j'aimerais vous rappeler ce matin ceci, c'est que dans cette guerre-là, nous avons la victoire, mais nous devons ne pas oublier que nous sommes combattants. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être que tu te dis, « Ah, en ce moment, je suis dans les combats. » Merci Seigneur, parce que c'est la vie chrétienne normale. La vie chrétienne, ce n'est pas l'épanouissement personnel. Ça, ça vient quand on marche avec le Seigneur. Mais c'est le combat dans lequel nous avons à lutter contre l'ennemi à chaque instant. Et la deuxième chose aussi, mes frères et sœurs, c'est que la vie chrétienne, c'est aussi une formation. Une formation. Quand Jésus nous a pris avec lui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous n'étions pas dans un bel état. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur le 7 décembre 2002, je me suis mis au pied de mon lit et j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie, c'est une vraie poubelle, mais je te la donne, change-la, transforme-la. Quand le Seigneur nous a pris, notre vie était un chantier, peut-être même des ruines. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il est celui qui nous forme de jour en jour. Comment il nous forme ? Eh bien, il nous prend et surtout, eh bien, il fait et il fabrique et il construit, il bâtit son image dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous puissions le refléter à chaque instant. Et ce qui est merveilleux, c'est que le combat dans lequel nous sommes contre l'ennemi, Jésus va s'en servir pour nous former. Jésus va s'en servir pour nous former. Ce n'est pas un combat simplement gratuit, mais Jésus, qui est celui qui se glorifie en tout, va se servir du combat que nous menons contre les puissances des ténèbres, contre le diable, contre l'ennemi, contre les puissances de ce monde, pour nous former, pour nous, eh bien, nous fonder, nous former à son image, pour nous transformer de gloire en gloire. Et moi, je veux dire ce matin, Seigneur, que ton nom soit béni. Continue ton œuvre en moi. Jésus l'a vécu et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lisons ensemble ce texte de Luc chapitre 4, versets 1 à 14. C'est génial, c'est écrit là-haut. Il faudra que je vous dise ça, Cavaillon. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus n'a pas été conduit au Carlton. Jésus n'a pas été conduit à Hollywood, mais il a été tenté et conduit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Verset 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nos vies ce matin. Alors, première chose, ce matin, qu'est-ce que la tentation ? La définition du mot tentation, elle dit ceci. C'est un attrait vers une chose qui est défendue. Alors là, il n'y a pas plus clair. Attrait, je suis attiré vers quelque chose que je sais qui est défendu. Et puis une autre définition va nous dire tout ce qui suscite l'envie. Tout ce qui suscite une envie dans nos cœurs, dans nos vies. La Bible nous montre que la tentation, et elle va dans la même direction, sauf qu'elle donne une précision, elle dit que c'est tout ce que le diable, l'ennemi, nous propose, met devant, dans plein milieu de notre chemin, il met pourquoi ? Eh bien, pour tenter de nous faire tomber et tenter de nous éloigner de Dieu. C'est ça la tentation dans la Bible. La tentation, c'est le diable tente de mettre des embûches pour que je tombe, même si j'ai l'impression que ça va être beau, que ça va être merveilleux pour ma vie, et surtout que je m'éloigne de Dieu, que je m'éloigne de la gloire de Dieu. Cependant, nous savons que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. J'aime ce texte qui dit que le méchant, et nous savons que le diable n'est pas gentil, mais qu'il est méchant. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Pourquoi ? Parce que lui, il veut nous faire tomber. Lui, il veut nous détruire. Lui, il veut nous éloigner de Dieu. Lui, il veut qu'une église, eh bien, elle ne marche plus dans les voies de Dieu. Mais merci Seigneur, Jésus se sert des œuvres du diable pour se glorifier, c'est-à-dire, eh bien, pour fortifier son église, pour fortifier son peuple, pour fortifier ses enfants et pour leur permettre d'être victorieux. Alléluia. Et ce que j'aime quand eh bien, le combat est dans ma vie, c'est de me dire, Jésus, lui, n'est pas dépassé. Même si moi, j'y suis, même si des fois, pour moi, je me dis, mais Seigneur, je vais lâcher, il nous tient, il me tient, et c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia, que son nom soit béni. On va parler quelques instants maintenant de la tentation de Jésus. C'est ce que nous voyons au travers de cet épisode de la Bible qui est intitulé dans beaucoup de Bibles aujourd'hui « La tentation de Jésus », on pourrait même dire « Les tentations de Jésus ». Et nous voyons ceci, c'est qu'il y a un ordre vraiment chronologique dans ce qui se passe. Après son baptême, on pourrait dire après cet engagement, même si nous savons que Jésus a montré l'exemple, puisque Jésus est engagé de toute éternité, il est Dieu. Mais après son baptême, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert. L'Esprit Saint est venu, eh bien, sur Jésus. Il est venu, une voix s'est fait entendre où Dieu, eh bien, attestait son Fils, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Jésus va connaître le désert. Vous regardez, c'est ce qui se passe. Jésus va connaître le désert. Il va aller dans le désert. Pourquoi ? Pour vivre la tentation. Ne soyons pas surpris, mes frères et sœurs, qu'après peut-être des bénédictions du Seigneur, nous connaissions le désert. La Bible nous en parle et elle est claire dessus. Jésus va connaître le désert et la tentation. Oui, Jésus, la Bible nous dit qu'il a été tenté en tout. La Bible dira qu'il a été tenté en tout et il n'y a rien qu'il n'ait, eh bien, je veux dire, dans lesquels il n'a pas été tenté. Et il a triomphé et aujourd'hui, pour ceux qui lui appartiennent, il leur donne cette puissance de triompher parce qu'il sait ce que c'est. Il a eu la victoire et Jésus n'est pas celui qui garde tout pour lui, mais il nous offre cette victoire. Jésus fut conduit au désert. Ce n'est pas le diable qui a manipulé Jésus pour le conduire au désert. Vous avez des chrétiens, des fois ils sont là, « Ah, je suis dans le désert, c'est le diable qui m'a piégé. » Jésus n'a pas été manipulé par le diable. Jésus n'a pas non plus été dans le désert par lui-même. Je parle là, des fois, on est dans des déserts, dans des problèmes, et on dit « Ah, Seigneur, tu me formes !» Alors qu'en fait, c'est nous qui nous y sommes mis tout seuls. Là, on ne parle pas de Jésus qui a décidé d'y aller, tout seul. On parle littéralement du Saint-Esprit qui l'a conduit. Quelle est belle cette expression, le Saint-Esprit l'a conduit. Mais le mot grec qui est utilisé pour « conduit » va peut-être choquer plusieurs d'entre nous. C'est le terme grec « ago », « A-G-O ». Et ago, vous regardez la définition, c'est l'expression menée par la laisse. Oh ! Jésus, dans son humanité, n'avait pas envie d'aller au désert. Qui d'entre nous a envie d'aller au désert? Qui d'entre nous a envie d'être tenté? Jésus, dans son humanité, puisqu'il est 100% homme, 100% Dieu, n'avait pas envie d'y aller. Mais le Saint-Esprit l'a conduit littéralement, il l'attirait dans le désert pour l'emmener vivre les tentations. L'Esprit l'a traîné littéralement au désert pour y être tenté. Et j'aimerais vous dire ce matin, si nous passons par des temps difficiles, si nous passons peut-être par des moments particulièrement compliqués, et ça arrive à chacun d'entre nous, ce matin, changeons peut-être notre mentalité et disons au Seigneur et à son Esprit, que veux-tu m'apprendre au travers de cela? Parce qu'il y a toujours un but, il y a toujours une raison. Ensuite, Jésus, la Bible nous dit que les tentations vont commencer à un moment bien précis. Elles vont commencer quand le besoin va commencer à se faire sentir. Quand tout va bien avec le Seigneur, ça peut arriver des fois de tomber même à ce moment-là. Mais quand tout va bien avec le Seigneur, quand je suis béni, renouvelé, encouragé, merci Seigneur. Mais les tentations de l'ennemi, elles viennent non pas quand tout roule, non pas quand tout va bien, mais les tentations, elles viennent généralement, c'est quand on commence à manquer de quelque chose. Frère, j'ai plus d'argent. Et les tentations vont commencer à arriver. Frère, je suis en ce moment souffrant et la tentation commence à arriver. La tentation, parce que l'ennemi est très malin, elle va venir quand nous commençons à être dans un besoin de quelque chose. Et puis la tentation, elle vient aussi quand on n'a pas ce qu'on veut. La frustration. Tu comprends, Seigneur, ce frère-là, il a ça et moi, je ne l'ai pas. Tu comprends, la sœur, elle a ça, mais moi, je ne l'ai pas. Et la tentation commence à arriver. L'ennemi arrive et il commence à faire des propositions très intéressantes. Malheureusement, n'oublions jamais dans notre vie chrétienne de regarder toujours les petites phrases, les petites choses dans un contrat qu'on ne voit pas beaucoup à l'œil nu et qui pourtant, des fois, nous révèlent des choses qu'on se serait bien passé. Oui, les tentations. Le mot désert dans la Bible, ça signifie privation, frustration. Mes frères et sœurs, quand je suis à un moment donné dans un besoin, je suis en train de rentrer dans un désert. Quand je commence à être frustré, je commence à rentrer dans un désert. Pourquoi? Parce que c'est le même mot. Dans un désert, on est privé de choses. Dans un désert, il y a des frustrations parce qu'on sait que dans la ville ou dans les endroits où il y a de l'abondance, il y a quelque chose, mais nous là, on n'a rien. Je me rappelle, il y a quelques années, alors que j'étais dans le nord-est de la France et que je ne savais pas où le Seigneur allait m'emmener. À l'époque, j'étais célibataire. Et je ne savais pas où le Seigneur allait m'emmener, dans quelle ville, dans quelle église. Ah, il y avait des choses qui étaient là, mais il n'y a rien qui avançait. Et puis, j'avais des collègues qui me disaient, « Ah, nous, le Seigneur m'a répondu, mon épouse, on va là, et puis on va là, on va là. » Et moi, j'étais perdu, je ne savais pas. Et j'étais dans la salle de cette église, à l'époque où j'étais... Et j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, et je sentais comme un désert dans ma vie. Un désert à savoir la tentation de me débrouiller par moi-même ou la tentation de faire confiance, pas la tentation, mais plutôt l'épreuve de savoir est-ce que je vais faire confiance au Seigneur. Et le combat a été mené pendant des heures, des jours. On me téléphonait même en me disant, fais confiance au Seigneur. Et je répondais, mais tais-toi, tu ne sais pas dans quelle situation je suis. Parce que quand on ne sait pas notre avenir, de quoi il sera fait, c'est dur. Et à un moment donné, j'ai fléchi devant le Seigneur parce que le Seigneur m'a dit, je veux t'apprendre la patience et la persévérance. Je suis tombé à genoux. Et merci Seigneur, le Seigneur a conduit les choses. Le désert. N'ayons pas peur des déserts, mais surtout, apprenons avec le Seigneur. Les trois tentations de Jésus, elles représentent trois domaines dans lesquels je serai tenté, nous serons tentés par l'ennemi. Et on va les voir tout de suite. Le premier domaine dans lequel nous serons sans cesse tentés, la Bible nous parle, c'est notre moi. Vous savez que le premier ennemi du chrétien, c'est son propre moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit crucifions notre moi, il est crucifié avec Jésus, nous sommes morts à nous-mêmes. Parce que c'est le premier domaine dans lequel on est sans cesse tenté. C'est le premier domaine dans lequel on a tendance très vite à le décrucifier. Jésus est dans vraiment un manque, le manque de nourriture, le manque d'eau pour s'hydrater. Et la Bible nous dit que la première tentation du diable, c'est quoi ? C'est, tu vois qu'il y a une pierre là, change-la en pain. Tu en as la possibilité, tu en as la capacité. Vas-y, mange, remplis ton corps, remplis ton moi, satisfais ton moi. C'était légitime, mais pourtant Jésus va dire ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, le premier combat, la première tentation que nous avons, c'est dans nos désirs, dans nos aspirations. Le premier combat que nous, la première tentation que nous devons, auquel nous devrons faire face, ce sont nos envies, ce sont, vers où nous penchons dans les choses que nous désirons, que nous souhaitons. Nous voulons quelque chose, comme nous le disions. Nous voulons une chose bien particulière et la tentation arrive même très rapidement. Oui, notre moi, première tentation dans laquelle le diable va essayer de mettre la main, mais dans laquelle le Seigneur veut que nous lui obéissions et que nous marchions avec lui. La deuxième tentation, nous la voyons de Jésus, on pourrait dire que c'est la tentation vis-à-vis des choses de ce monde. Je me rappelle il y a quelques années d'un groupe, ça remonte à plusieurs années, un groupe de chants avait commencé dans une église aux États-Unis. Et ce groupe chantait pour la gloire du Seigneur. Waouh ! Ce groupe chantait et il y avait tellement des choses, une qualité, qu'ils se sont fait repérer par un producteur connu à l'époque. Et ce producteur, il est venu et il a dit, voilà, j'ai entendu vos chants. J'ai entendu ce que vous faisiez. Et j'aimerais vous faire un contrat pour que vous puissiez chanter devant des foules et des foules. Quelle belle proposition alléchante. Et ce groupe, ni plus ni moins, se sont pas posé la question. Ils ont décidé de dire, oui, on va le faire. Oui, on s'engage. Comme ça, on va aller dans le monde, on va pouvoir chanter. Sauf que ce producteur lui dit, vous ne parlez pas de Dieu dans vos chansons, s'il vous plaît. Vous enlevez ça. Ok, Par la suite, le succès a commencé à arriver. Et le producteur a remis encore une pression supplémentaire. Il leur a dit ceci, vous allez chanter un petit peu ce qu'on va un peu vous mettre dessus. Vous allez arrêter de chanter ce que vous désirez, vous souhaitez, mais vous allez maintenant aller dans la ligne directrice de ce qu'on va vous demander. Et ce groupe, voyant le succès monter, a dit ok. Ce groupe, je ne le dirai pas, mais en tout cas ce groupe a gagné le monde. Mais ce groupe aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont tombés dans des addictions, sont tombés dans des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu gagner le monde. La deuxième tentation de l'ennemi, c'est de nous vouloir nous faire gagner ce monde, de nous faire réussir, non pas selon Dieu, mais selon lui dans ce monde. C'est de pouvoir nous conduire dans ce que ce monde désire pour nous et que nous puissions et que nous tombions dans cela. Deuxième tentation. D'ailleurs, le diable va dire à Jésus, « Regarde tous les royaumes de la terre. Je les ai reçus. » Et il ne ment pas, le diable, sur ce coup-là. Parce que je tiens à vous préciser que depuis le jour où l'homme et la femme sont tombés dans le péché, Dieu avait donné autorité à l'homme et à la femme, à Adam et Ève. Mais quand Adam et Ève sont tombés, ils ont donné toute l'autorité au diable, puisqu'ils se sont remis entre ses mains. Et le diable, lui, il a tout récupéré, l'autorité sur ce monde. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour reprendre ce que le diable avait volé et pour détruire les œuvres du diable. Mais le diable, lui, il dit à Jésus, j'ai tout reçu, et c'est vrai. Et le diable dit, je donne à qui je veux, c'est vrai. Mais Jésus, lui, il va tout récupérer, pas comme le diable veut, mais comme lui, comme le Père le désire. Et à ce moment-là, le diable lui dit, je te donnerai tout, prosterne-toi devant moi. Et Jésus va lui répondre à nouveau, et il va lui dire, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et à lui seul, tu rendras louange et gloire. Oui, ce monde, c'est quoi quand le diable nous tente vis-à-vis de ce monde? C'est la tentation d'entrer dans la mentalité de ce monde. Le monde appelle les choses bien, bien mal, et les choses mal, bien. Le monde, lui, a une mentalité qui est en inimitié avec celle du Seigneur. Le monde, lui, il cherche son intérêt. Le monde, lui, il est prêt, il n'y a pas de problème, eh bien, à passer au-dessus, à s'écraser. Oui, le monde est prêt à toutes sortes de choses. Le monde même est prêt aux choses les plus malhonnêtes pour arriver à ses fins. Et le diable est celui qui va tenter de nous attirer dans ses filets, attirer dans cette toile d'araignée et de te dire « Regarde, tu vas être bien vu aux yeux du monde. Regarde, tu vas être bien vu aux yeux des gens. » Il y a même des églises qui sont tombées dans le panneau. Regarde, les gens, ils vont être interpellés par ce que tu fais. Mais alors, voilà, tu prêches pas ça, tu dis pas ça, tu fais pas ça. Le monde, la tentation. Et puis troisième chose dans lequel l'ennemi va nous tenter. Et là, peut-être que ça va rechoquer à nouveau. Jésus va se retrouver en haut du temple. Et le diable va lui dire ceci. Déjà, il va lui faire une proposition qui est quand même bizarre. Jette-toi en bas. J'ouvre une parenthèse ce matin. Oui, le diable est celui qui peut, dans des moments tellement difficiles, nous dire « Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait temps que ça s'arrête ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il serait temps que tu abandonnes le Seigneur ? Abandonne, abandonne tout. Peut-être même, est-ce que tu ne crois pas que la mort serait préférable à la vie ? Excusez-moi, mais le diable, il a tenté Jésus de se jeter en bas. Et on sait ce qui se passe quand on se jette en bas. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous avez de telles pensées, de telles tentations, regardez ce que Jésus va faire. Regardez ce que Jésus va faire. Ne tombez pas dans le panneau, mais au contraire, continuez à avoir vos yeux fixés sur le Seigneur. Il va dire à Jésus, jette-toi en bas. Et là, Jésus va lui répondre, eh bien, cette parole merveilleuse, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Jésus, là, il se trouve dans un endroit particulier. Il se trouve à Jérusalem, oui. Mais il se trouve où ? Sur le temple. Le temple, c'est quoi à l'époque ? C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où les gens se rassemblent dans toute la ville et même des autres villes pour aller rendre un culte au Seigneur, pour aller l'adorer. Le temple, en fait, c'est l'image physique de ce qui plus tard sera aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Et peut-être là, quelque chose d'important à dire, le diable peut aussi nous tenter dans l'Église. Oh, comment ça, frère ? Mais c'est pas vrai, Jésus est là. Le diable peut tenter, même au sein même de l'Église. Le frère là ne m'a dit des choses mauvaises sur moi. Il va voir ce qu'il va voir. Je connais des églises, malheureusement, les chrétiens, vous avez un rang là, je ne dis pas que c'est le cas ici, hein, mais il y a un rang là et un rang là, et ceux qui sont là, ils partent là, et ceux qui sont là, ils partent là, ils ne veulent plus se parler du tout. Les tentations terribles de régler ses comptes. Les tentations, quand des fois dans l'église, il y a peut-être des tempêtes, et de dire, oh, la tentation, je vais me jeter, c'est-à-dire, je vais laisser cette église, je vais aller dans une autre, ici, c'est pas bien, je vais quitter le navire. Les tentations, même dans l'église. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, merci Seigneur pour l'église, parce que le Seigneur nous forme les uns avec les autres, comme des pierres que le Seigneur polit les unes avec les autres. Et c'est vrai que plusieurs fois, eh bien, j'ai peut-être pris des coups au sein de l'Église, par mes frères, par mes sœurs. Peut-être qu'il y a des moments, j'en ai voulu à des frères, à des sœurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a formé, m'a appris et m'a montré combien son amour est grand et m'a demandé de pardonner. Et m'a demandé, eh bien, de regarder non pas comme je vois, mais comme lui, il voit. Oui, quand on a été blessé dans l'Église. Oui, quand il y a peut-être des tempêtes, des conflits. Quand peut-être il y a des désaccords, quand il y a peut-être des moments difficiles par lesquels on passe, oui, la tentation peut venir se présenter et de dire « Jette-toi, retire-toi de cette église, retire-toi, abandonne, c'est pas grave. » Mes frères et sœurs, veillons à toutes ces choses. Puis je terminerai ce matin pour dire ceci, mon dernier point, que faire face à la tentation ? Parce qu'on a expliqué les tentations et Vous pourriez me dire, toutes les tentations que vous avez aujourd'hui, elles rentreront dans les trois catégories. Moi, monde, église. Il n'y en a pas d'autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, au tout début, a été tenté dans ces trois domaines. Que faire face à la tentation ? Jésus nous a montré l'exemple de comment tenir ferme et de comment vaincre. Retenons ceci, mes frères et sœurs, ces trois petites choses. Pourquoi Jésus a-t-il tenu ? Parce que c'était Dieu ? Oui, mais dans son humanité, il y avait un combat. Comment Jésus a-t-il pu tenir ? La première chose, c'est que Jésus n'a jamais oublié que dans son humanité, il était en apprentissage. La Bible ne dit-elle pas à propos de Jésus qu'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert ? C'est pas moi qui le dis. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert à la croix, oui, mais aussi dans le désert et dans tout au long de son ministère sur terre. Jésus a appris dans son humanité l'obéissance au travers de ce qu'il a souffert. Je crois que si on oublie à un moment donné que notre vie chrétienne est un apprentissage, on se met en danger personnellement. Quelqu'un qui ne veut plus être enseigné est en grave danger. Quelqu'un qui ne veut plus apprendre est en très très grave danger. Le monde le sait très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, on met même à la porte des gens parce que refus d'apprendre, refus de participer, refus, on le dit. Et dans la vie chrétienne, quand quelqu'un se croit arrivé, il dit « j'ai plus rien à apprendre ». L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dira à Timothée « ramène-moi mes affaires, surtout les rouleaux ». C'était quoi les rouleaux ? C'était la parole de Dieu. L'apôtre Paul, même à quelques instants de sa mort, il voulait encore apprendre. N'oublions jamais, c'est ce que Jésus avait dans son cœur dans le désert. Il savait qu'il était là pour apprendre du Père dans son humanité. Il savait qu'il était là pour apprendre avec le Père dans l'humanité, apprendre la tentation et apprendre aussi à triompher de la tentation pour nous venir en aide quand nous passerons par ces temps-là. Oui, Jésus a appris l'obéissance au travers de ce qu'il a souffert et il a accepté cela et il savait que tout ce qui se passait dans ce désert était permis du Père puisque le Saint-Esprit l'avait conduit, poussé, tiré. Et il savait qu'au travers de cela, le Père allait faire une œuvre merveilleuse, incroyable. N'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que dans les déserts, dans les tentations de ta vie, de toujours dire au Seigneur de tout ton cœur, « Que veux-tu m'apprendre, Seigneur ?» Si tu ne perds d'objectif l'apprentissage, tu vas commencer à dire, « Je n'ai pas à être là, je n'ai rien à faire ici, pourquoi je suis là, c'est de la faute de lui, 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 lui. » Et malheureusement, la chute est assurée. Mais si dans ta vie, tu dis « Oui, Seigneur, peut-être qu'il y a ça, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ?» Je me rappelle, il y a quelques années, alors que je venais d'arriver dans une église, le téléphone sonne et ma mère était en larmes au bout du téléphone et je lui dis « Alors, les nouvelles, quelles sont-elles ?» Et ma mère me dit ceci, « Ton père, le verdict est tombé, il a un cancer. » Bam ! Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein. Mais quand le mot cancer touche, c'est le mot mort, enterrement, funérarium qui tombe. Hein. Même si aujourd'hui les progrès, merci Seigneur, de la médecine sont évidents, mais le mot qui revient le plus, c'est celui-là, mort. Et à ce moment-là, alors que je venais de commencer dans cette église et que le mot cancer vient, ma mère en pleurs, me dit « on est attaqué, on est tenté, il y a plein de choses qui arrivent ». Je décide bien de raccrocher, de prendre mes affaires et j'ai dit au Seigneur « j'arrête tout, j'abandonne tout, je vais maintenant partir, je vais aller voir ma famille parce que Seigneur, peut-être qu'il ne reste plus que quelques semaines à mon père à vivre. Alors, eh bien, c'est tout, j'abandonne et puis je pars. » Et j'ai même dit à Jésus, c'est injuste. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des gens qui ont une vie mauvaise, pourrie, excusez-moi l'expression. Et eux, il leur arrive rien. Et mon père qui marche avec toi depuis 30 ans, il lui arrive ça, c'est injuste. Refus d'apprendre. Et à ce moment-là, alors que j'étais énervé, que je préparais mes affaires, le Seigneur a attendu que je me calme. Et le Seigneur m'a dit ceci, « Tu ne peux rien faire pour ton Père, mais moi je peux, cherche d'abord mon royaume et toute chose te sera donnée par-dessus tout. » À ce moment-là, j'ai réfléchi quelques instants dans cet appartement où j'étais et le Seigneur m'a dit ceci, « Je t'ai placé ici, fais mon œuvre, fais, bâtis mon royaume avec mon esprit. » Et moi, je vais m'occuper de ton père. J'ai déballé mes affaires et j'ai tout remis à sa place. j'ai continué de servir le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, même si les choses ne se sont peut-être pas passées comme je l'aurais souhaité, puisque mon père aujourd'hui a toujours, eh bien, toujours vis-à-vis de cette maladie, mais le Seigneur agit de jour en jour. Cela fait maintenant 9 ans. Mais le Seigneur, eh bien, a agi dans le cœur dans mon cœur. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris aussi à lui obéir, à lui être fidèle, même dans les moments les plus difficiles. Il m'a aussi appris, eh bien, que c'était pas moi qui portais tout, sinon j'allais m'écraser littéralement. Et en même temps, le Seigneur se sert, et il se sert encore de mes parents dans cette assemblée de Reims, pour que même peut-être dans des moments difficiles, leur témoignage soit la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes en apprentissage. Et nous, aujourd'hui, ici, dans l'église d'Istres, est-ce que mes frères et sœurs, vous rappelez encore dans votre cœur ces paroles? Oui, je suis là pour te servir. Et le mot servir, ce n'est pas simplement faire. Le mot de servir, c'est aussi être. Je veux me laisser changer, transformer par toi. Deuxième chose, et avant-dernière, Jésus a tenu et Jésus a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Père. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons nous poser beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, même si on le connaît, on peut se les poser, mais on va vite les faire taire, ces questions. Jésus connaissait le Père. D'ailleurs, il était un avec le Père. Le mot « connaître » dans la Bible, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ça ne sert pas trop à grand-chose, la connaissance intellectuelle. La connaissance dans la Bible, c'est littéralement l'expression « un homme qui connaît sa femme ». À savoir, il y a une unité, ils deviennent un. Ils sont tellement dans cette unité qu'ils déteignent l'un sur l'autre. Oh, on a la même pensée, chérie, oui, on y va. Oh, je pensais ça, toi aussi. On est un, on se connaît. Et Jésus connaissait le Père, et il connaît le Père. Il est un avec le Père. Et il savait quelle était la volonté du Père. Et il n'avait pas envie de faire autre chose que la volonté du Père. N'est-il pas celui qui a dit « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Oui, Jésus était tellement, il connaissait, et il connaît le Père, qu'il savait ce qui venait du Père et il savait ce qui venait du diable. Aujourd'hui, des fois, on est tellement peu dans cette communion avec Dieu, et je me parle aussi à moi-même, que des fois, on se laisse avoir par des choses en disant « ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu », et là, on dit « ça vient du diable, et ça ne vient pas du tout du diable ». Connaître le Père. Jésus savait exactement, il connaissait, et il a pu triompher. Oui, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, je nous encourage à ne pas négliger cette connaissance du Père. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a tellement beaucoup de choses à faire que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus. Et le problème, c'est que dans les déserts et dans la tentation, ça se voit très rapidement parce qu'on est complètement désorienté. Oui, mes frères et sœurs, ne négligeons pas ce qui est le plus important, le trésor d'une valeur inestimable, cette relation avec notre Sauveur, notre Seigneur. Cette relation avec notre Père, cette relation avec sa parole, avec sa volonté, être un avec lui, apprendre à le connaître, rentrer dans son intimité. Et pouvoir connaître son cœur afin de pouvoir être éclairé quand les choses arrivent et de savoir comment agir. Oui, Jésus connaissait le Père. Et puis la dernière chose, et c'est ma conclusion, Jésus a lutté par la parole. Jésus n'a pas lutté avec ses mots à lui. Un jour, j'ai entendu une personne dans l'église dire « Ah, j'ai eu l'habitude de plein de souffrances ». C'est bon, c'est dans la poche. Ouh, Seigneur, ta grâce. Je frémis à ce genre de paroles. Oui, Jésus, il a combattu non pas avec ses arguments. Ce n'est pas parce qu'on est dans un monde où tout se combat à coups d'arguments et c'est celui qui a le meilleur argument qui va réussir. Laissez-moi vous dire que déjà, les arguments, quand il faut les mettre après en application, il n'y a plus personne au rendez-vous, ou très peu de monde. Mais Jésus, lui, n'a pas combattu non plus avec son charisme naturel. Jésus, la Bible nous dit, Il a combattu avec la parole. La parole du Père. Il est lui-même la parole incarnée. Il a combattu avec la parole. Et là, je voudrais attirer pour terminer votre attention sur Jésus qui a combattu avec la parole à deux tranchants. Et le diable, lui, il a combattu avec la parole à un seul tranchant. Regardez l'explication. Écoutons l'explication ensemble. Vous savez que le diable, lui, la parole, il la connaît parfaitement. Le diable, il a passé énormément de temps avec le Dieu. Bah oui. Le diable, il connaît par cœur la Bible et ça ne l'impressionne pas quand on la connaît par cœur. Je vais même vous dire une chose, et c'est ce que la Bible nous dit, le diable peut même nous parler au travers de la Bible. Ah. Je me rappelle un jour, j'étais passé par des moments difficiles et j'étais tombé dans quelque chose. Et dans ma chambre, j'étais culpabilisé. C'était au tout début de ma vie chrétienne et on ne m'avait pas encore enseigné ces choses-là. Et je me mets au pied de mon lit à nouveau et j'ouvre la Bible, mais d'une manière qu'il ne faut pas faire. Si, ça peut arriver que le Seigneur parle, mais il faut faire attention. Je ne vous le recommande pas. J'ai ouvert ma Bible au hasard. Et là, je tombe sur cette parole d'Ésaïe. « Je n'écouterai pas ton cri, je ne te pardonnerai pas. » J'ai arrêté de prier et la détresse est venue dans mon cœur. À tel point que mes parents, puisque j'avais 17-18 ans, mes parents sont venus, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui va pas ?» Et mon père m'a expliqué, il m'a dit « Mais Mathieu, ça ne vient pas du Seigneur. Remets dans le contexte cette parole. » Et il m'a amené sur cette parole du peuple qui était tombé et qui ne voulait pas se repentir, qu'on n'avait rien à faire du Seigneur. Et il m'a dit « Oui, Dieu est en train de dire à ce moment-là à son peuple que si tu persévères dans le péché, ce n'est pas qu'il ne pardonnera pas, c'est qu'il ne pourra pas parce que le peuple ne lui permet pas. » Mais pour toi, tu te repens aujourd'hui, tu demandes pardon. Alors, et il m'a amené sur un autre passage, ce passage qui dit « Il est juste et fidèle pour nous pardonner. » Alléluia. Mais le diable peut parler au travers de la Bible. Il l'a fait à Jésus quand il lui dit « Jette-toi, car il est écrit que les anges donneront. » Eh bien, il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te récupèrent. C'est une parole du psalmiste. C'est une parole de la Bible. Le diable, il connaît la Bible par cœur. Le diable ne t'amuse pas à jouer avec qui connaît mieux la Bible. Il va te liquider très rapidement. Pourquoi ? Parce que lui, il a l'épée à un tranchant, c'est-à-dire qu'il connaît parfaitement la parole. Il connaît exactement ce qui est dit. À Adam et Ève, il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais par contre, Jésus, lui, il a combattu avec l'épée à deux tranchants. La Bible nous dit que sa parole est plus efficace qu'une épée à deux tranchants. C'est quoi ce deuxième tranchant ? Jésus connaissait la Bible, oui. Il connaît la parole, il est la parole incarnée. Mais Jésus, à la différence du diable, il obéissait à la parole. Et ça a été le deuxième tranchant. Et l'ennemi, quand on combat avec un seul tranchant, on est mort. Excusez-moi. Mais quand, contre l'ennemi, on combat avec les deux tranchants, à savoir, on connaît la parole, mais aussi on y obéit, on la vit, laissez-moi vous dire qu'il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Et pourquoi aujourd'hui autant de défaites dans les vies, dans les cœurs ? C'est parce qu'on connaît la Bible, des études bibliques, et puis on veut connaître intellectuellement. Mais quand Jésus nous demande de vivre sa parole, « Non Seigneur, c'est bon, je connais. » Et quand le diable arrive, on ne peut plus rien faire. Avec quoi combattons-nous, mes frères et sœurs, ce matin ? Avec un seul tranchant contre l'ennemi ? Je connais la Bible. Oh, il est écrit ceci. Et le diable, il va dire « Oui, mais il écrit ceci aussi. » Ou est-ce que je combats avec deux tranchants, c'est-à-dire « Il est écrit ceci et aujourd'hui, je veux le vivre. » Aujourd'hui, je veux le vivre. Aujourd'hui, je veux pardonner à mon père ou ma mère qui m'en a fait voir pendant des années. Aujourd'hui, je veux pardonner à ce chrétien qui m'a humilié. Oui, c'est écrit de pardonner. Aujourd'hui, je veux le vivre. Satan, arrière. C'est ça, l'épée à deux tranchants. Connaître et obéir. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas oublié la véritable arme, la véritable épée de sa parole ? Le combat, mes frères et sœurs, il est à vie. C'est-à-dire que tant que nous serons sur cette terre, notre moi, le monde, et même dans l'Église, le diable cherchera à nous attaquer, à nous tenter, à nous titiller. Parce qu'il est écrit même à la fin que le diable, il va s'éloigner jusqu'à une occasion favorable. Ça veut dire que le diable va continuer avec Jésus. Comme il continuera de le faire, et ce matin, je n'élève pas le diable, mais ce matin, je veux vous expliquer, mettre en lumière son œuvre, Pourquoi ? Pour que nous puissions, eh bien, ne pas nous laisser avoir, mais que nous puissions nous tenir à l'abri des ailes de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le seul qui a vaincu, et il est celui qui, en nous, nous donne cette puissance, cette autorité. Oui, mon frère, ma sœur, ce matin, le message est dit. Ce matin, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, et que nous puissions comprendre ce matin, oui, les tentations auxquelles nous sommes confrontés. Que nous puissions comprendre ce que l'ennemi veut faire, mais que nous puissions comprendre ce que Jésus veut faire et ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Comme David dira, la table est dressée, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Sur cette table, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout ce dont j'ai besoin pour triompher de mes ennemis, dira David. Et moi, j'aimerais vous dire, à la croix, Jésus a tout pris au diable et il a tout mis sur la table de la grâce. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à demander la foi, la puissance, l'autorité, la paix, la joie. Nous avons à nous en saisir et à le vivre. Que son nom soit béni. Et que l'assemblée que nous sommes, puisque nous sommes cette Église du Seigneur Jésus, eh bien que nous puissions aujourd'hui ne plus nous laisser avoir. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, si tu te laisses encore avoir, laisse-moi te dire, ne te culpabilise pas, mais reviens au cœur de Jésus. Reviens au cœur de Jésus, parce que l'ennemi peut aussi te dire, ah, tu vois, tu as entendu le message, mais tu t'es trompé. J'aimerais te dire, reviens au cœur du Seigneur. Et quand bien même tu serais tombé à nouveau, il est capable de te relever, Jésus. Et il est capable de t'emmener de victoire en victoire et de progrès en progrès. Est-ce qu'on pourrait ce matin, eh bien, se courber nos fronts, fermer nos yeux, être dans la prière ? Alléluia. Alléluia. Est-ce que, je me permets, hein, Joël m'a rien dit, mais je me permets quand même, est-ce que peut-être Pierre-Yves, tu peux venir eh bien, jouer un morceau au piano, s'il te plaît ? Et j'aimerais prier quelques instants ce matin pour ceux et celles qui sont peut-être là, eh bien, qui se sont reconnus dans ce message. Ce matin, on ne se regarde pas, ce n'est pas un spectacle. Ce matin, c'est une prise de position, de décision. Nous l'avons dit, le but n'est pas de connaître simplement intellectuellement la parole, mais c'est qu'elle pénètre nos cœurs et que nous la mettions en application. Peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a des bien-aimés, quel que soit votre âge, quel que soit votre marche avec le Seigneur, quelle que soit votre position dans l'Église. Face à ça, il n'y a plus vraiment de position, il y a juste la position dans le Seigneur. Mais ce matin, peut-être au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui, oui, dans les déserts, dans les tentations, un peu comme l'apôtre Pierre, sont en train de couler, sont en train de sombrer. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris ou tu avais oublié l'apprentissage du Seigneur. Tu avais oublié peut-être... Ou alors tu n'as pas veillé à connaître toujours plus le Seigneur, son intimité. Ou alors même carrément tu n'as pas pris la bonne arme. Tu as juste pris simplement une épée à un tranchant. Alors que le Seigneur te rappelle ce matin, l'épée à deux tranchants, elle est là pour toi. Et ce matin, peut-être ton cœur est dans la culpabilité. Peut-être que même le diable, il a réussi à mettre dans ton cœur le fait de dire « Jésus, c'est bon, il t'a mis de côté ». Peut-être qu'aujourd'hui, l'ennemi te dit « Jésus ne te pardonnera pas parce que ça fait 10 000 fois que tu es tombé. » Moi, j'aimerais te dire au nom de Jésus-Christ, 10 000 fois peut-être tu es tombé, 10 000 fois le Seigneur peut te relever. Alors ce matin, j'inviterai ceux et celles qui aujourd'hui marchent de victoire en victoire à prier maintenant. Ce n'est pas moi simplement qui ai la puissance du Seigneur, c'est l'Église. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, si toi, le message t'a encouragé que c'est vrai que tu marches de victoire en victoire, tu t'es relevé dans les moments difficiles au nom de Jésus-Christ, eh bien maintenant, prie à ta place. Et j'aimerais inviter maintenant les frères et les sœurs, on ne vous juge pas, on a été à un moment donné comme vous, mais le Seigneur nous a fait grâce et le Seigneur veut vous faire grâce ce matin. Si tu passes par un désert, si tu passes par des tentations qui sont là, et si malheureusement, eh bien, tu es là comme courbé, tu es là comme tombé, tu es là comme quelqu'un qui aujourd'hui s'est pris des coups et tu es sonné peut-être dans ta vie, ce matin, ose de saisir la grâce du Seigneur et tu verras que le Seigneur va te relever, tu verras que le Seigneur va te soigner. va panser tes blessures. Tu vas voir que le Seigneur, eh bien, si tu, aujourd'hui, eh bien, saisis sa main par la foi, tu vas voir que le Seigneur, eh bien, il va, eh bien, continuer cette formation en toi. Il va se faire connaître toujours plus à toi. Il va te remplir de lui. Mais veux-tu oser ce matin la foi de te relever au nom de Jésus-Christ? Si tel est le cas, je t'invite maintenant, alors que personne ne regarde, c'est entre toi et le Seigneur, je t'invite à te mettre debout à ta place et on va prier. Et en te mettant debout ce matin, c'est comme si tu disais « Je saisis la grâce du Seigneur et je me relève maintenant ». Alléluia. Y a-t-il des frères et des sœurs? Je crois qu'il y en a plusieurs ce matin. Alors levez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. C'est peut-être tu luttes contre une tentation de ton moi. Ce matin, le Seigneur, eh bien, veut te remplir de son esprit, de sa grâce. Ce matin, c'est peut-être un combat parce qu'on t'a fait des propositions, on t'a proposé de gagner des choses dans ce monde et tu sais que ça va t'éloigner du Seigneur. Mais le Seigneur te dit, que cherches-tu ce matin, à gagner les choses de ce monde ou à gagner Christ? Alléluia, les choses qui se flétrissent ou les choses qui demeurent éternellement? Et puis ce matin, peut-être que tu as été blessé dans l'église. Peut-être que ce matin, c'est peut-être un serviteur de Dieu qui t'a blessé. Et aujourd'hui, tu rumines toutes ces choses. Et Seigneur te dit, je suis là, je veux te relever. Et je veux aujourd'hui que tu prennes victoire. Alors lève-toi maintenant, ne reste pas allongé, ne reste pas dans cette position qui n'est pas la gloire du Seigneur. Mais que le Seigneur se glorifie, alléluia. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui se sont levés ce matin. Ils ne se lèvent pas devant moi parce que Seigneur, je ne peux rien faire. Mais ils se lèvent devant toi, Seigneur. Seigneur, notre cœur se réjouit parce que, Seigneur, ce matin, il y a des décisions maintenant qui sont prises. Et je te demande maintenant de venir relever mes bien-aimés. Je te demande maintenant, Seigneur, de venir soigner leur cœur, leur âme, leur esprit. Je te prie ce matin, Seigneur, de venir, et bien maintenant là, et bien faire vraiment grandir ces paroles dans leur cœur. Et que maintenant ils puissent, Seigneur, eh bien oui, être là et dire, Seigneur, je veux maintenant apprendre de toi. Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Seigneur, c'est vrai, j'ai mis de côté ta parole. C'est vrai, j'ai mis de côté bien des choses. Je me croyais arrivé. Mais ce matin, je veux repartir encore avec toi. Repartir tout à nouveau avec toi. Seigneur Jésus, je te prie ce matin pour que vraiment l'épée à deux tranchants soit prise maintenant dans les cœurs, dans les vies. Et que l'ennemi soit mis en échec. Que l'ennemi soit mis, Seigneur, en déroute dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, mais aussi pour la suite. Parce que tu l'as vaincu à la croix de Golgotha. Et parce qu'aujourd'hui, c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, remplis mes frères et mes sœurs. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai cette pensée aussi, Seigneur, de te prier pour quelqu'un qui a des pensées au milieu de nous, d'abandon, peut-être même de suicide. Te demandant, Seigneur Jésus, maintenant, et bien que, alors qu'il s'est levé, qu'il a pris une décision devant toi, que maintenant ton amour balaye ses pensées, que ton amour maintenant vienne, et bien planter des pensées de vie, des pensées de persévérance, des pensées d'endurance, pour la gloire de ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, grandir, avancer avec toi. Seigneur Jésus, fais ce que tu veux dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons te suivre, marcher avec toi jusqu'au bout pour la gloire de ton nom. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever tous ensemble et le louer, l'adorer ensemble? Alléluia. Peut-être même de prier, alléluia, ensemble les uns avec les autres ce matin. Nous sommes une famille, prions ensemble avec les uns avec les autres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à toi. Kaya Labama.
Sonde-moi, ô Dieu. Il connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oh, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et nous remercions notre frère, tous les participants, les choristes, ainsi que vous-même, et surtout le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous donnons rendez-vous mardi 19h sur le champ de bataille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi et à une prochaine fois.